Et c'est pour défendre et promouvoir un Paris ouvert et généreux, rebelle et créatif, que je veux être votre maire.
L'union de la gauche n'a jamais été en sommeil.
Bah écoutez, ils font leur vie, nous on fait la nôtre.
Ça distille une ambiance de travail qui relève de notre responsabilité à l'échelle nationale si on veut gagner en 2027.
Les élections municipales à Paris auront des répercussions nationales. Le Parti socialiste estime que ses chances de victoire sont meilleures s'il se tient à distance de la France insoumise. Mais celle-ci pourrait bien le faire trébucher, quitte à favoriser la victoire de la droite. C'est le sommaire de ce numéro 139 du Bourbon de Serge. C'est une élection qui aura valeur de test national. La gauche, sans la France insoumise, peut-elle remporter une élection? Peut-elle battre la droite et l'extrême droite sans le renfort du mouvement de Jean-Luc Mélenchon? C'est le défi que se propose de relever à Paris le socialiste Emmanuel Grégoire, soutenu par les écologistes, les communistes ainsi que les mouvements Place Publique et l'Après. Hier, mercredi, il tenait son premier meeting dans l'Est parisien.
Dans 60 jours, Paris aura fait un choix clair. Un choix entre l'outrance et la compétence. Un choix entre une ville fermée et une ville ouverte. Un choix entre une ville de rente et une ville de travail. Un choix entre une ville de peur et une ville de confiance. Et c'est pour défendre et promouvoir un Paris ouvert et généreux, rebelle et créatif, que je veux être votre maire.
Je crois que cette union, c'est l'aboutissement d'abord d'une vision partagée. On a nos différences, mais quand se joue l'essentiel, on met de côté les petits intérêts boutiquiers ou les intérêts particuliers pour construire une histoire collective.
L'union, mais sans les insoumis. Il est vrai que Sophia Chikirou, la tête de liste du mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans la capitale, ne porte pas le PS dans son cœur. « Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris », déclarait-elle le 21 novembre aux Parisiens. Emmanuel Grégoire n'est pas en reste. Voici ce qu'il affirmait il y a à peine un mois.
C'est une union la plus large de la gauche hors LFI.
Hors LFI.
Mais bien sûr, hors LFI.
Ne tendez pas la main à LFI.
Vous le savez très bien, je l'ai dit
pas si
mille
clair.
Fois. Je l'ai dit mille fois, Monsieur Soto, ici même,
dans l'accord,
dans vos studios.
Les partenaires s'engagent à tout faire pour qu'il n'y ait qu'une seule liste de gauche au second tour.
C'est exactement ça. Le LFI sera en dessous de 10%. Nous allons expliquer aux Parisiennes et aux Parisiens, il n'y aura pas d'accord avec LFI.
Pourquoi 10%? Parce que c'est le seuil à partir duquel les listes peuvent se maintenir au second tour de l'élection. Entre 10 et 5, elles peuvent fusionner avec une autre liste restée en lice. En dessous de 5, elles disparaissent de la circulation. Lorsqu'elle s'est lancée dans la campagne, Sophia Chikirou était donnée à 17% d'intention de vote. Elle tourne aujourd'hui autour de 11% si l'on en croit l'Institut Elabe. Les sondages ne sont pas une science exacte, ça se saurait. Mais il donne des indications sur les tendances générales. Et désormais, il n'est pas certain que l'insoumise puisse se maintenir au second tour. Le ton a donc changé. Dans le Figaro, la candidate propose un marché à la tête de liste socialiste. Dit-il toujours qu'il ne veut aucun accord avec LFI au premier comme au second tour. S'il retire cette phrase, je retire la mienne, qui disait qu'il ne fallait pas d'un maire socialiste à Paris. J'ai donc demandé à Emmanuel Grégoire si cette inflexion modifiait sa position. Réponse.
J'ai déjà été extrêmement clair depuis longtemps. Notre liste, elle a vocation à faire le score le plus haut possible au soir du premier tour. Et moi, je ne me trompe pas d'adversaire, je n'ai qu'une adversaire, c'est Rachida Dati. On veut convaincre des électeurs qui, à un moment donné, ces dernières années, ont pu être séduits soit par Mélenchon, soit par Emmanuel Macron. Nous, on parle à tout le monde et on essaie de dépasser ces clivages et ces confrontations.
La question embarrasse le socialiste, car parmi les forces qui le soutiennent, les avis divergent sur l'attitude à observer avec la France insoumise. Il y a ceux qui ont fait une croix sur le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Bah écoutez, ils font leur vie, nous on fait la nôtre. C'est bien, non? Après, vous savez, je suis convaincu que les électrices et les électeurs, on l'a vu dans les différents scrutins, ils ont envie que la gauche gagne, ils ont envie que la droite perde. Donc je suis convaincu qu'au premier et au deuxième tour, les électrices et les électeurs de gauche et écologistes ne se tromperont pas de bulletin et mettront le bulletin Grégoire et la gauche écologiste.
Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, se risque même à un euphémisme topographique.
L'union de la gauche n'a jamais été en sommeil. Voilà. Elle prend parfois des géographies variables. Mais en tout cas, ce soir, c'est vrai que c'est un beau rassemblement.
Mais d'autres regrettent ouvertement l'absence de la France insoumise. Écoutez la réponse de Clémentine Autain lorsque je lui fais remarquer l'absence de LFI.
Qu'elle devrait être là.
Pour la députée de Seine-Saint-Denis, l'union de presque toute la gauche à Paris est porteuse d'une dynamique nationale.
C'est-à-dire que le fait que dans ce meeting, il y ait Marine Tondelier, Olivier Faure, moi, d'autres qui sont là, eh bien ça, voilà, ça distille une ambiance de travail qui relève de notre responsabilité à l'échelle nationale si on veut gagner en 2027.
Si le socialiste Emmanuel Grégoire parvient à l'emporter sans rien concéder à la France insoumise, c'est le leadership de la gauche qui pourrait basculer. Car bien qu'il se soit émancipé de la France insoumise, le PS peine encore à redevenir la force centrale de la gauche. Une victoire dans la capitale changerait tout. Certes, aux élections européennes de 2024, les socialistes alliés à Raphaël Glucksmann ont devancé de presque 4 points la liste insoumise. 13,83% pour les premiers, 9,89% pour la seconde. Cependant, l'élection européenne reste un miroir déformant des rapports de force. L'attachement à la construction européenne varie selon les partis. Et traditionnellement, sur cette question, les électeurs insoumis se mobilisent en moins grand nombre. À Paris, la bataille ne sera pas un long fleuve tranquille. Ce sera plutôt la Volga traversant Stalingrad en 1942. Trois cas de figure peuvent se présenter. Une quadrangulaire dont l'issue reste incertaine. Rachida Dati et Emmanuel Grégoire sont au coude à coude. Deuxième simulation, le duel. Là encore, ça se jouera à une poignée de voix. L'Institut Elab donne une égalité parfaite. 50-50. Troisième scénario, le maintien de Sophia Chikirou, alors même qu'à droite, Pierre-Yves Bournazel, soutenu par Horizon et Renaissance, se retirerait. Dans cette dernière hypothèse, Rachida Dati l'emporte haut la main avec 5 points d'avance sur Emmanuel Grégoire. Bref, Sophia Chikirou peut faire perdre la gauche comme elle peut la faire gagner. Le 30 janvier, la candidate organise un grand meeting au Cirque d'hiver à Paris. Peut-être en saura-t-on davantage sur ses intentions. Toute la question est de savoir quelle est la démonstration que veut faire la direction de la France insoumise. Que sans elle, rien n'est possible? Ou bien qu'elle ne se trompe pas d'adversaire en refusant de faire trébucher la gauche? Pour l'heure, il semble que les socialistes soient encore rangés dans le camp des traîtres. Écoutez la réaction de Mathilde Panot hier mercredi après l'échec de la motion de censure sur le Mercosur.
La motion de censure insoumise contre le gouvernement Le Cornu aura donc échoué à 32 voix. Évidemment, la responsabilité incombe entièrement aux députés du Parti Socialiste jusqu'à la droite dite républicaine en passant par les macronistes qui ont donc, par leur vote, en refusant de voter cette motion de censure, accepté la capitulation de la France devant le Mercosur. Je rappelle que si officiellement la France a voté non contre le Mercosur, nous exigeons et nous disons qu'il y a une responsabilité immense de la part d'Emmanuel Macron qui, depuis 8 ans, n'a absolument rien fait pour bloquer cet accord, pour réunir la minorité de blocage qui aurait pu permettre d'empêcher cet accord.
Dans l'histoire récente, on a assisté à des rabibochages express. Ce fut le cas notamment avec la création de la NUPES et même du nouveau Front populaire. Mais cette fois, on part de loin, de très loin, au risque de voir la droite alliée à l'extrême droite l'emporter sans trop d'efforts. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, les pouces et les partages sont les bienvenus. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour nous soutenir, c'est sur Donorbox que ça se passe. Vos dons sont le socle de notre indépendance. Merci à tous ceux qui permettent à cette chaîne d'exister. On se retrouve lundi pour Pôle Express.